De quelle Bretagne? Ça, c'est une vraie, vraie bonne question. Je m'étais jamais posé la question de cette manière, en fait.
Enquête du patrimoine.
C'est une bonne situation, ça, Scribe.
Mais vous savez, moi, je crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation.
Bah, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de rubrique En Histoire Braise, Enquête du patrimoine. Le podcast qui parle de celles et ceux qui valorisent le patrimoine en Bretagne. Je suis Axel Gerin et avec Marie Mouchou, nous allons commencer notre série de podcasts dédiée au métier de la conservation. Et aujourd'hui, nous nous intéressons au métier de directrice de musée. C'est pourquoi nous accueillons aujourd'hui Céline Chanas, directrice du musée de Bretagne. Bonjour Céline Chanas.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est super intéressant d'avoir une directrice de musée dans ce podcast. Donc on a une première question à vous poser. Est-ce que vous pouvez vous présenter et ainsi que présenter votre parcours professionnel ?
Alors, je m'appelle Céline Chanas, je suis directrice du musée de Bretagne depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années, depuis fin 2012 exactement. Et je suis arrivée en Bretagne par choix, après avoir obtenu mon diplôme de conservateur, conservatrice du patrimoine à l'Institut National du Patrimoine et à l'INET, qui forment les cadres culturels de la fonction publique territoriale. On est aux côtés des bibliothécaires et des administrateurs également. Mon parcours professionnel a commencé au début des années 2000 et j'ai commencé comme médiatrice culturelle, responsable d'un site patrimonial pour lequel il y avait une extension muséale importante, donc en tant qu'attachée de conservation du patrimoine, donc il y avait un projet important. Et au bout d'une dizaine d'années, voilà, j'ai passé le concours de conservateur du patrimoine, ce qui m'a amenée à exercer des fonctions avec des responsabilités plus importantes de direction de musée.
D'accord, très bien. C'est super intéressant. Donc, vous avez commencé d'abord par la médiation avant d'être en conservation du coup.
Alors voilà, j'ai fait des études d'histoire, une maîtrise d'histoire en parallèle d'un diplôme de l'Institut d'études politiques à Grenoble. Et à l'issue de ce parcours assez généraliste finalement en histoire et en sciences politiques, je me suis spécialisée avec un master qui s'appelait Direction de projet culturel. Option métier de la culture. Et j'ai toujours souhaité travailler dans le secteur patrimonial des musées. Comme je n'avais pas de spécialisation scientifique, je ne me suis pas sentie au départ légitime sur le domaine des collections. J'étais plutôt généraliste. Et je me suis orientée, je comptais m'orienter vers la communication ou la médiation culturelle. Et l'un des premiers postes pour lequel j'ai été recrutée, c'était ce poste de médiatrice culturelle pour le département de l'Ain au sein d'un musée de société qui était également un monument historique et dont la thématique principale étudiait les rapports de l'homme à son alimentation. Voilà, c'est là que je me suis finalement formée à la fois à la médiation culturelle et j'ai pris goût à travailler dans le domaine des musées de société qui me passionne toujours.
Très bien, et donc est-ce que vous avez un domaine de prédilection dans la conservation, dans la médiation ?
Alors, la médiation, oui, le partage finalement du patrimoine avec les publics, parce que c'est là d'où je viens, et c'est, je pense, ce qui est notre mission première, comment transmettre des savoirs au plus grand nombre. Donc ça, c'est ce que j'estime être mon cœur métier, toujours d'ailleurs, en tant que directrice d'un musée. Et puis, en termes de domaine scientifique, j'ai essentiellement travaillé dans des musées d'ethnologie, d'ethnographie, et c'est vrai que j'ai un domaine que j'affectionne particulièrement, parce que c'est celui dans lequel j'ai le plus travaillé, c'est le domaine de l'alimentation et de l'anthropologie de l'alimentation.
D'accord, l'alimentation, et c'est un peu surprenant, on pense à la conservation, on pense souvent dans les réserves, un peu souterraines, et au final l'alimentation ça fait aussi partie du patrimoine, donc et c'est peut-être pas commun de travailler sur ce type de sujet en tant que conservatrice, je sais pas.
Dans un musée de société, on a plein de sujets en fait, donc on pourrait dire finalement qu'on est assez peu souvent spécialiste ou spécialisé, notamment dans des musées de taille moyenne comme le musée de Bretagne. Alors certes, un conservateur au Louvre ou un conservateur dans un musée de Beaux-Arts, il va pas forcément avoir une spécialisation en peinture, en art contemporain, en art ancien, en archéologie. Dans un musée de société, et c'est le cas au musée de Bretagne, on a plus de 800 000 objets et documents dans nos collections, très variés, donc finalement la spécialisation se pose moins. Ce qui est important, c'est surtout la curiosité et l'adaptation, savoir apprendre, savoir faire appel à des spécialistes. Après, forcément, dans une équipe comme la nôtre, on a toujours des personnes, c'est aussi l'art de faire travailler une équipe ensemble, des personnes qui vont être spécialisées en photographie, d'autres en archéologie, d'autres plutôt en ethnologie. Voilà, donc même si j'ai pas un cursus initial complet en ethnologie, je viens quand même du domaine des sciences sociales, et donc je connais les méthodes, et je vais pouvoir, s'il faut travailler par exemple un axe d'acquisition ou une exposition, je vais pouvoir travailler et m'adapter finalement aux besoins.
D'accord, très bien, merci. Et donc, en tant que directrice de musée, quelles sont en fait vos missions ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus ce que vous faites comme travail ?
Alors, être chef d'établissement d'un musée, et notamment d'un musée qui a l'appellation Musée de France, bah, c'est répondre déjà aux missions, on va dire, réglementaires qui sont prévues par le Code du patrimoine, d'un ensemble, on va dire, qui va être lié à la gestion des collections, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, donc acquérir, conserver, entretenir, restaurer les collections. Un ensemble également de missions qui vont plutôt être liées à l'étude et à la recherche. Et puis un ensemble de missions qui vont être liées au partage et à la transmission des savoirs et des connaissances, donc plutôt le domaine de la médiation culturelle, de la diffusion, de l'action, des expositions. Voilà, après une direction de musée, c'est bien sûr donner au musée un cap stratégique, donc impulser une stratégie qui va se matérialiser notamment par la rédaction d'un projet scientifique et culturel. Et puis surtout, c'est garantir, on va dire, le fonctionnement de cet établissement en manageant une équipe. Donc ça pourrait être pour n'importe quel établissement ou structure d'ailleurs autre culturelle. Ça veut dire gérer au quotidien des collègues, garantir des moyens, négocier également des budgets avec une collectivité. Tout le domaine de la gestion qui a quand même pris une fonction beaucoup plus importante dans le métier des directeurs de musée qu'ils ne pouvaient l'avoir il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années.
Donc dans notre podcast, on s'intéresse particulièrement à l'histoire et au patrimoine breton. Et donc on a sonné à la bonne porte, on est ici au musée de Bretagne. Et donc on se demandait de quelle Bretagne on parle ici dans ce musée.
De quelle Bretagne ? Ça c'est une vraie bonne question. Je m'étais jamais posé la question de cette manière en fait. J'aurais envie de dire... Alors de manière assez factuelle, hein, parce qu'il faut aussi se rapporter à des repères qui peuvent être des repères chronologiques et des bornes aussi géographiques. On parle d'une Bretagne ici qu'on appelle souvent la Bretagne historique, c'est-à-dire une Bretagne qui couvre aujourd'hui les 5 départements, c'est-à-dire les 4 départements de la Bretagne administrative, mais nous incluons également la Loire-Atlantique. Ça fait partie de l'histoire du musée. Donc le territoire de la Bretagne dont nous parlons ici est celui-ci. Et ensuite, on parle d'une Bretagne sur un temps très long et d'une Bretagne qui n'était pas encore la Bretagne, puisqu'on va s'intéresser au territoire depuis l'apparition, finalement, ou la connaissance des premiers êtres humains sur le territoire breton jusqu'à nos jours. Donc voilà, donc plusieurs dizaines de milliers d'années. Et d'un point de vue, d'un rapport plus anthropologique, j'aurais envie de dire qu'on a envie de parler d'une Bretagne qui est ouverte sur le monde, d'une Bretagne qui est plurielle et d'une Bretagne qui est diverse. Voilà peut-être quelques valeurs aussi qui sont attachées au musée de Bretagne, c'est-à-dire une Bretagne dont on va définir une identité en relation avec des caractéristiques dont vont nous parler les Bretons et les Bretonnes d'aujourd'hui. Voilà, en quoi ce sentiment d'appartenance à la Bretagne résonne dans les pratiques culturelles actuelles, et de les mettre finalement dans une perspective historique.
Et alors justement, est-ce que vous travaillez peut-être avec des associations qui valorisent le patrimoine culturel breton, comme par exemple, je sais pas, les danses, la langue?
Alors oui, le musée, en fait, il... Alors de plus en plus, en fait, souvent un musée se caractérise par ses collections matérielles, mais un musée de société se définit aussi beaucoup par un patrimoine culturel beaucoup plus large qui inclut l'immatériel, donc qui va pouvoir intégrer des pratiques vivantes, mais qui vont quand même avoir une matérialité, que ce soit par des instruments de musique, par des photographies, qui vont monter des danses. On parlait de la question de la cuisine, ça peut être également des recettes, ça peut être des tours de main, ça peut être des savoir-faire. Donc on va pouvoir voir ou lire également dans des films, par exemple. Donc le musée travaille régulièrement avec un certain nombre d'acteurs culturels associatifs ou des institutions sur le territoire breton. Je pense notamment à la Cinémathèque de Bretagne, à Bretagne Culture Diversité, à Dastum, à Kenleur. Mais nous allons aussi travailler avec des associations plus locales ou plus reliées au territoire immédiat autour du musée de Bretagne, autour de Rennes Métropole. Je pense notamment au Cercle Celtique de Rennes, mais ça pourrait être aussi des associations comme la Grange à Goules, comme la Bouèze, et puis bien sûr tout le réseau des autres musées en Bretagne, qu'ils soient des musées municipaux, mais aussi des musées associatifs.
Et on se demandait, depuis le temps où vous êtes arrivé à votre poste, est-ce que votre regard sur la Bretagne ou sur la façon de parler de la Bretagne a changé ?
Alors oui, bien sûr, mon regard il a forcément changé dans les 12 années que j'ai pu passer en Bretagne. Mon regard il a changé en tant que professionnel, il a aussi changé en tant que personne, pour plein de raisons, parce qu'on peut se dire qu'on apprend tout au long de la vie, on apprend des autres, on apprend aussi de ses lectures, on apprend de ses rencontres, on apprend aussi de ses succès. Donc par exemple, quand on a fait des expositions dont on a pu être particulièrement fier, on a fait des belles rencontres, alors j'en ai quelques-unes en tête pour lesquelles j'ai assuré notamment le commissariat scientifique, je pense notamment à l'exposition Boire en 2015, ou à une exposition qui s'appelait J'y crois, j'y crois pas, ou une autre exposition Bretagne Express, voilà, pour lequel on a fait tout un travail également de collecte sur le patrimoine ferroviaire, donc là des belles rencontres, donc vous voyez, des thèmes très différents et qui nous amènent à appréhender le patrimoine breton dans des connexions qu'on n'avait peut-être pas imaginées. Mais on apprend aussi de difficultés. Et je pense notamment à une exposition que nous avions faite en 2022 qui s'appelait Celtique, point d'interrogation, où le musée a pu être contesté, un petit peu bousculé par rapport à une manière d'interroger l'héritage celtique de la Bretagne. Et malgré voilà, les difficultés qui ont pu être rencontrées hein, au moment de l'exposition, avec trois ans plus tard, avec le recul aussi qui est le nôtre, de se dire voilà, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment nous ferions aujourd'hui. C'est vrai que ça nous amène aussi à envisager sans doute différemment notre méthode de travail, et notamment la relation aux communautés, la relation à des associations, ce qui nous amène à réfléchir justement sur les enjeux peut-être de manière de travailler d'un musée avec un réseau d'acteurs, que ce soit des individus, que ce soit des communautés, parce que forcément... c'est normal finalement de ne pas avoir forcément une même vision d'un sujet. Ben, en anthropologie, c'est assez courant.
Très bien, donc vous parliez des expositions du musée de Bretagne. Justement, vous êtes donc le musée est en train de refaire totalement l'exposition permanente, donc qui est gratuite et accessible à tous. Je pense que c'est important de le rappeler parce que je ne sais pas si tout le monde le sait. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce processus de refonte de l'exposition permanente et qu'est-ce qui a motivé cette transformation ?
Alors depuis 2020, le musée est gratuit. Ça a été une décision de la collectivité hein, de rendre tous les musées rennais et les bibliothèques également gratuites. Donc c'est un acte politique fort et qui pour nous s'est traduit par une augmentation forte de la fréquentation. Mais au-delà de la fréquentation et de son augmentation, c'est pas forcément le quantitatif qui était visé, c'est bien le meilleur partage de la connaissance. Et cette question de l'évolution du parcours permanent du musée s'est posée, en fait, déjà il y a une dizaine d'années à mon arrivée. C'est vraiment un élément que j'avais posé dans le diagnostic et dans les perspectives du projet scientifique et culturel du musée. Sauf qu'un projet d'évolution d'un parcours permanent, ça prend du temps, ça demande de la réflexion scientifique, ça demande de l'argent aussi. Et que nous avons dû attendre de poser un certain nombre de sujets, notamment celui du financement, pour nous engager sur cette réflexion. Nous avons donc engagé la réflexion sur l'évolution du parcours permanent du musée au sortir du confinement, en nous appuyant d'une part sur un diagnostic. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas? Qu'est-ce qui nécessitait d'être amélioré? Et la plupart des études de public, les retours également des médiateurs et des médiatrices, avaient posé comme enjeu la question de l'accessibilité, de rendre plus lisibles les grands repères de l'histoire de Bretagne. Voilà, donc un travail sur la signalétique, sur les textes, sur le graphisme, s'est imposé comme une évidence. Par ailleurs, au Champ Libre, nous avions engagé un grand chantier sur l'accueil, sur l'hospitalité et sur un public que nous avions considéré comme un public cible, qui était les familles. Comment, là aussi, mieux accueillir les familles? Et donc, nous avons engagé un certain nombre de réflexions pour proposer des outils de médiation, des dispositifs également, qui permettent aussi d'intéresser un public plus jeune. Et enfin, d'un point de vue de l'actualisation de la matière culturelle de Bretagne, nous avions besoin de valoriser certaines collections qui étaient rentrées dans nos collections et qui sont des collections intéressantes, voire exceptionnelles. Et également des axes de recherche, hein, des connaissances tout simplement, qui avaient évolué dans des disciplines comme l'archéologie ou l'histoire et qui nécessitaient d'être actualisées. Donc nous nous sommes fait accompagner par un conseil scientifique qui est composé de différents historiens, mais également d'anthropologues ou de linguistes, et qui valide là aussi les contenus que nous proposons de faire évoluer.
Très bien, bah merci, c'est très intéressant. Et puis ça n'arrive pas tous les jours, je suppose, une refonte complète d'une exposition permanente dans un musée, donc on aura hâte de la découvrir. Elle sera finie complètement quand? Ça se fait par étapes, de ce que j'ai compris.
Alors, ce projet d'évolution du parcours permanent du musée, qui date de 2006, donc vous voyez qu'il a 20 ans, on peut se dire, c'est beaucoup, hein, quand on pense qu'une exposition temporaire, ça dure un an et ensuite on change, 20 ans, c'est énorme. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a beaucoup de parcours permanents de musée qui sont beaucoup plus vieux que ça. Celui de l'écomusée, par exemple, il n'a pas loin de 40 ans. C'est aussi une question de moyens. Donc, l'une des questions que nous sommes posées, c'est... est-ce qu'aujourd'hui, dans un musée, on est en capacité de faire évoluer un parcours sans tout changer, ou en se disant que on est en capacité aussi, d'ici 5 ans, de faire évoluer des éléments, en fait. C'est-à-dire de ne pas tout figer. Donc ça, c'est un élément qu'on essaye de mener. Et puis le deuxième élément, c'est à l'intérieur de ce parcours permanent, c'est garder des espaces qui pourront donner lieu à des évolutions régulières, c'est-à-dire faire du temporaire dans le permanent, en quelque sorte. Voilà, on se donne à peu près 3 ans pour le terminer. Alors beaucoup de musées parfois ferment pendant 5 ans, 10 ans. Nous, c'était inconcevable qu'on ferme le musée pendant une période si importante. Donc là, le musée va fermer par tranche. On peut dire concrètement, on va fermer certains espaces pendant un an, réouvrir un espace. Donc le premier espace qui va réouvrir pour la nuit des musées 2026 sera la partie qui couvre la période de la préhistoire à la Révolution. En juin 2026, nous allons réouvrir un nouvel espace qui sera une nouvelle exposition permanente consacrée à l'affaire Dreyfus. Et à la fin 2027, nous rouvrirons une deuxième tranche, celle qui est consacrée à la partie sur le 19e et le début du 20e siècle. Voilà, donc au terme de ces 3 ans, nous aurons achevé un premier lot, on va dire, d'amélioration de ce parcours. Mais nous interdisons pas ensuite de poursuit en fait ce programme d'amélioration continue.
Très bien, et bien merci beaucoup. On voit ces dernières années une tendance qui s'émerge dans les musées autour de l'avis du public pour qu'il soit mis au cœur des projets. Et les institutions muséales, considérées comme un temple du savoir pendant longtemps, tendent à devenir plutôt des musées, qu'on pourrait dire peut-être forums, puissent être au cœur de la vie citoyenne. Est-ce que cette tendance, elle s'émerge aussi au sein du musée de Bretagne, et est-ce qu'on invite les Rennais, Rennaises, Bretons, Bretonnes à participer à cette refonte ou à d'autres événements?
Alors oui, la question du musée forum était présente hein, dans le rapport du ministère de la Culture qui avait travaillé pour refonder le musée du 21e siècle, le musée forum, le musée citoyen. Nous y avions à l'époque contribué justement en rendant compte de certaines actions qui avaient été mises en place au sein du musée. Aujourd'hui, nous avons poussé plus loin la démarche, par exemple avec la mise en place d'un comité des complices, qui est une sorte, on va dire d'une commission, mais un format assez souple qui permet de solliciter l'avis des usagers, de recueillir l'avis des usagers et bien sûr d'en tenir compte ensuite de leur avis pour tester des formats et ensuite les implémenter en quelque sorte ou les déployer de manière plus pérenne. Depuis 2 ans, nous avons testé par exemple un parcours d'œuvres incontournables avec des cartels hein, que nous avons imprimés en format low-tech. Les collègues ont pu observer voilà, comment les visiteurs s'en emparaient. Et en fonction des retours qui ont pu être faits, soit dans l'observation, soit aussi en recueillant, en questionnant directement les visiteurs, alors ça va de la taille des textes, ce qu'on raconte dans ces textes, la présence aussi d'images, d'illustrations, d'iconographies, nous ont permis de déployer ce qui sera dans le parcours permanent remanié, un parcours qu'on a appelé parcours des incontournables et qui vise à proposer un parcours de visite en 1 heure au travers d'un certain nombre de stations. Ce comité des complices, on va le déployer aussi sous une autre forme. Alors, un format qu'on a appelé comité des experts, c'est pas nous qui l'avons inventé, hein. On s'est aussi inspiré de démarches qui existaient ailleurs, notamment au MUCEM, où l'idée plutôt là dans une logique de droit culturel, c'est-à-dire de faire s'exprimer les personnes qui sont directement concernées par un sujet, de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice, voilà, de contribuer. Et donc, nous avons un projet d'exposition temporaire qui est prévu pour 2028 sur la thématique de la broderie. Ou à côté d'un commissariat, je dirais un peu classique, nous avons proposé à une vingtaine d'experts, hein, qui sont experts pour différentes raisons. Ils sont experts parce que ce sont des brodeurs, ils sont experts parce que ce sont des membres de cercles celtiques, ce sont des experts parce qu'ils ont travaillé sur l'histoire de la broderie. Voilà, mais le terme d'expertise est pris dans une acception large. Donc voilà pour quelques exemples finalement de la manière dont nous prenons en compte l'avis des usagers. On l'a pris en compte par exemple aussi pour la refonte et la création du nouveau site internet du musée, le site des collections en ligne, où nous avons fait des focus usagers avec une démarche plutôt user-centrique finalement, où on a fait des ateliers de design, où on a cherché à faciliter en quelque sorte le parcours de l'usager.
Très bien. Vous avez tout à l'heure évoqué que la refonte d'une exposition est aussi un coût financier. On se demandait, est-ce qu'il y a eu des impacts dus aussi un peu au contexte qui n'est pas hyper favorable ces derniers temps? Et est-ce que vous avez dû renoncer à certains projets peut-être liés à la question financière?
Alors la question des moyens du secteur culturel... Voilà, en 2025-26, elle est tout à fait pertinente hein, dans le contexte que l'on connaît. Ce que nous pouvons dire, c'est que le musée de Bretagne est un musée en régie directe qui dépend de Rennes Métropole. Donc la régie directe, c'est le système de fonctionnement de très nombreux musées. Ça peut être un système rigide, entre guillemets, mais dans le cas actuel, c'est un système qui nous protège. Parce que voilà, nous ne sommes pas soumis à des coupes budgétaires comme une association pourrait l'être ou comme un musée qui dépendrait de plusieurs financeurs. Quand un financeur se retire ou divise sa subvention par deux, forcément le musée est directement impacté. Donc aujourd'hui, on peut dire que le musée de Bretagne, il est largement préservé dans ses moyens. C'est une chance, hein. Je pense que tous les collègues qui travaillent ici en sont conscients. Nous avons des moyens importants au champ libre qui nous permettent d'assurer nos moyens. Mais par contre, bien sûr, nous avons des contraintes et le projet d'évolution du parcours permanent, il s'est fait dans une contrainte forte. Une étude de pré-programmation avait été menée il y a quelques années avant la période Covid, qui avait chiffré entre 10 et 15 millions d'euros la reprise complète du parcours permanent. Donc c'était des chiffres astronomiques. À ce prix-là, on peut quasiment faire un musée pour certaines collectivités. Donc c'est un chiffre à lequel on a renoncé. Par contre, on a cherché une solution alternative, ce qu'on avait appelé le plan B. Et l'une des solutions alternatives que nous mettons en œuvre a été de se dire, nous n'avons pas plus de moyens, ni humains ni financiers, et nous ne pourrons pas assurer une programmation d'exposition temporaire pendant la période où nous devrons travailler sur l'évolution du parcours permanent. Donc nous avons pu utiliser et en quelque sorte négocier avec la collectivité l'affectation des budgets qui étaient prévus pour les expositions temporaires, qui sont du budget de fonctionnement, pour avoir une programmation d'investissement du parcours permanent. Voilà. Aujourd'hui, l'enveloppe sur le parcours permanent sur 5 ans, elle est d'un million d'euros environ. Pour vous donner un ordre d'idée sur les budgets qui sont affectés aux expositions temporaires au Musée de Bretagne, on est sur des budgets entre 200 et 250 000 euros pour une superficie de 400 m².
C'est très intéressant parce que c'est vrai qu'on derrière une exposition, on ne voit pas forcément les coûts financiers et humains, mais c'est toujours très intéressant et de voir que derrière une exposition, il y a quand même beaucoup de moyens qui sont mis en place.
Oui, alors il y a des moyens qui sont quand même très variables selon la taille des collectivités, la taille des musées, aussi qu'est-ce qui est prévu dans ce budget, puisque souvent on n'intègre pas la part RH, la part des ressources humaines, et puis aussi tous les moyens qui sont effectués en interne. La contrainte budgétaire nous a poussé, nous aussi, de plus en plus à réemployer, à pousser au maximum la logique d'éco-conception, donc de recyclage et de réemploi des scénographies, et nous a poussé aussi de plus en plus à réfléchir aussi à des solutions d'ingéniosité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut récupérer, qu'est-ce qu'on peut faire différemment, à quoi peut-on renoncer aussi. Ça fait partie également d'éléments qui, bien sûr, font partie de notre quotidien.
D'accord. Et donc, vous avez parlé de recyclage, d'éco-construction. C'est lié pour une question budgétaire, mais aussi, je pense, écologique. C'est quand même un souhait aussi de la ville de Rennes. Est-ce que le musée de Bretagne a aussi ce souhait d'être en équation avec la transition écologique ?
Effectivement, Rennes Métropole et les équipements culturels sont engagés dans une feuille de route autour de la transition écologique. Pour autant, les musées de société, dans leur philosophie et leurs ADN, ils portent aussi cette ambition sociale et écologique. Le musée de Bretagne adhère à différentes associations, dont Bretagne Musée, également la Fédération des écomusées et musées de société, qui, dans leur registre de valeurs, ont toujours porté ces logiques de coopération, de mutualisation, et pour des raisons à l'époque aussi qui étaient des questions financières, d'éco-conception des expositions. On utilisait d'autres termes, développement durable, et puis avant, l'écologie tout simplement. Aujourd'hui, au Musée de Bretagne, on a développé une expertise pour travailler sur une approche systémique du projet, c'est-à-dire qui intègre la logique de transition écologique non seulement, bien sûr, dans la construction et la production de l'exposition, mais également dans les choix scientifiques et culturels que nous pouvons mener, par exemple sur la question du choix des œuvres, la question du groupage des transports. Et voilà, l'un des enjeux qui est aussi le nôtre, c'est comment valoriser au maximum nos propres collections, voire valoriser des collections du territoire breton. Donc ça veut dire aussi une réflexion sur les sujets d'exposition. Voilà, on n'a jamais été dans des logiques, nous, de transports internationaux, on n'est pas dans ce type de coopération. Par contre, on a un vrai enjeu de travailler des projets à l'échelle du territoire breton. Donc soit en coproduction, c'est par exemple ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'exposition « Mourir, quelle histoire ?» avec le PCC « Chemin du patrimoine en Finistère ». Ou plus récemment sur l'exposition Carnaval, pour lequel on a mené un partenariat avec les musées de Caen et de Granville en Normandie, et pour laquelle l'exposition Carnaval, donc nous avions mené un projet d'enquête collecte, et donc un projet qui va être repris et adapté par le Port-Musée de Douarnenez. Voilà quelques exemples de la manière dont nous envisageons effectivement la question des transitions voilà, dans nos projets, et qui va aussi intégrer un cadre plus administratif, mais notamment ce qui va toucher à l'achat, la commande publique, donc l'achat éco-responsable.
Merci bien. On va arriver bientôt à la fin de l'entretien. Il nous reste deux petites questions. Une, alors on a parlé de la refonte de l'exposition, mais est-ce qu'il y a d'autres grands projets à venir pour le musée de Bretagne?
Alors, en 2026, le musée va connaître un début de chantier décisif, puisque ce sera le premier coup de pioche pour la construction de nouvelles réserves muséales qui sont destinées à abriter les collections communes du musée de Bretagne et de l'écomusée de la Bintinée. Donc c'est le transfert complet d'un pan très important de nos collections, avec la construction d'un bâtiment de haute qualité environnementale qui se traduira notamment par un soin très important attaché à la qualité du bâtiment, mais également à sa gestion énergétique, donc pour que ce bâtiment soit le plus passif possible donc en termes de variation de température. Le bâtiment sera également équipé de panneaux photovoltaïques qui dépasseront la production énergétique propre pour l'établissement. Ça, c'est un engagement de Rennes Métropole dans le cadre du plan climat-énergie. Voilà, donc ce sera un bâtiment vraiment de très belle qualité, de plus de 6000 m², qui va en quelque sorte là aussi révolutionner nos pratiques et qui permettra d'intégrer toute la chaîne de conservation des collections. Il comprendra également un atelier et un espace de stockage pour le mobilier muséographique. Donc voilà, l'ensemble vise à conserver le mieux possible les collections, mais aussi à en permettre l'accès aux chercheurs, faciliter également leur emprunt, par exemple, pour la diffusion des collections. Nous devrions également avoir un autre très beau chantier, c'est une V2 du site des collections en ligne du Musée de Bretagne. Là aussi, ça fait vraiment partie de l'ADN du Musée de Bretagne, la politique d'open content, c'est-à-dire de partage de ces collections en ligne. C'est un projet qui a commencé pour les journées européennes du patrimoine 2017. Donc ça fait déjà un certain temps que nos collections sont en ligne. Aujourd'hui, c'est plus de 350 000 documents qui sont en ligne, dont une partie sont en marque du domaine public et une partie en Creative Commons. Et donc cette nouvelle version qui devrait être lancée au printemps vise là aussi à offrir beaucoup plus d'ergonomie d'accès à ces collections et à faciliter aussi leur réappropriation par les publics. L'idée, c'est que les internautes puissent aussi contribuer à ce qu'on appelle l'indexation collaborative, c'est-à-dire à documenter les collections, mais s'ils le souhaitent également, voilà, à les télécharger dans la mesure des droits qui nous sont nous-mêmes conférés. Donc voilà les deux beaux chantiers que j'ai envie de citer pour l'année 2026.
De belles initiatives, ça donne envie en tout cas d'aller jeter un petit coup d'œil quand tout ça, ça sera sorti de terre. Et donc une petite dernière question un peu plus légère, est-ce que vous pourriez nous parler de votre souvenir le plus mémorable de votre carrière? Celui qui vous vient à l'esprit là comme ça.
Alors, un souvenir mémorable de ma carrière, ce n'est pas facile.
Quelque chose de positif ou quelque chose où vraiment il y avait une catastrophe dans le musée, je ne sais pas.
Alors, j'ai deux souvenirs, j'ai deux idées que je vous livre. Bon, la première, comme je vous le disais, moi je viens de la médiation culturelle. Donc, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup de plaisir à circuler aujourd'hui, toujours voilà, dans les espaces du musée, à rencontrer des personnes. Et c'est vrai, je garde quand même de bons souvenirs de rencontres dans le cadre d'activités de terrain, avec des donateurs ou avec des personnalités. Et comme je vous disais que j'ai beaucoup travaillé sur l'alimentation, voilà, mes plus belles rencontres, c'est celle au moment d'une exposition sur la gastronomie, à la rencontre de chefs, donc c'est dans la cuisine. Donc ça, très très belle rencontre. Et un souvenir, alors, un peu plus catastrophique, mais on s'en est sorti, tous les conservateurs, je ne vais pas dire doivent y passer un jour, mais en tout cas, ça fait partie du métier. C'est le dégât des eaux que nous avons connu au musée de Bretagne et qui a vu la rupture d'une canalisation et qui nous a occupés pendant des mois et des mois voilà, à sauvegarder finalement les collections photographiques. Mais ce que j'en garde comme élément positif, c'est le collectif, c'est l'élan de solidarité au sein de l'équipe du musée, tout le monde s'est mobilisé et bien au-delà finalement, donc voilà, de souvenirs d'une carrière qui n'est pas encore terminée.
Merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez raconté. C'était très intéressant.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
L'épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête du patrimoine.